Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Renaud Évrard, qui est un membre du réseau CIRCE et qui est un spécialiste de la psychothérapie liée au paranormal et particulièrement au phénomène de hantise. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va faire un petit warning pour les auditeurs parce que derrière toi, il y a deux fantômes.
Même trois enfants en bas âge dont j'ai pas réussi à me débarrasser, donc qui risquent de venir hanter le podcast.
Voilà, donc si vous entendez des petits cris, comme on dit, en japonais, ils aiment bien l'expression shogunai, on ne peut rien y faire, il faut être stoïque, stoïque devant
c'est
l'adversité.
C'est ça.
Et sinon, aussi pour les auditeurs aussi pour être un peu honnête, c'est vrai que j'ai invité Renaud parce que il a eu une relation un peu conflictuelle par le passé avec avec l'Observatoire Zététique. Et avec moi aussi, et donc je l'ai invité pour un peu qu'on ait l'occasion de discuter et on a un peu l'occasion d'entendre sa voix, quoi.
Voilà. Oui.
Est-ce que tu pourrais commencer un peu par te présenter?
Oui, merci pour cette invitation et puis pour cet accueil. Donc moi je suis psychologue clinicien en psychiatrie adulte d'abord. Donc ça c'est mon travail à temps plein et je suis également chercheur en psychologie à l'université de Strasbourg, docteur en psychologie depuis 2012. Et alors moi je parle pas de psychothérapie du paranormal, je parle de clinique des expériences exceptionnelles. C'est des petits termes un petit peu différents, j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer tout ça, mais effectivement je fais partie d'un réseau de chercheurs qui s'appelle le CIRCE, c'est Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles que j'ai cofondé en 2009. Et où j'expose avec des collègues des travaux qu'on fait effectivement sur tout ce qui serait la psychologie, des expériences paranormales, des croyances paranormales en France et à l'étranger. Voilà.
Oui, en regardant un peu le site, moi l'impression que j'avais eue, c'était que c'était surtout sur la clinique des expériences inhabituelles, mais ce que tu m'as expliqué, c'est que ce n'était pas forcément le cas. Donc dans le réseau CIRCE, il y a des gens qui travaillent juste sur la psychologie des expériences inhabituelles.
Oui, parce que c'est quand même, ça reste interdisciplinaire, c'est-à-dire que, par exemple, le point de vue historique est assez important parce que c'est pas que depuis 10 ans que les gens s'intéressent à ça, les psychologues se sont intéressés à ça depuis le début de la psychologie. Et donc, les psychologues, les psychanalystes, on retrace un petit peu l'historique, les idées qu'il y avait eu là-dessus. Et puis, des gens qui travaillent plus sur les méthodes un peu modernes, les neurosciences ou les recherches en psychologie cognitive pour expliquer la survenue des expériences exceptionnelles, les profils de personnalité. Et tout ça, c'est plutôt de la psychologie anomalistique. C'est pas forcément une approche clinique. Mais il y a des cliniciens dans ce réseau qui discutent aussi à partir d'un autre matériel qui est effectivement le fait de voir des gens et d'essayer de les aider quand elles sont en difficulté avec ces expériences.
Mmh. Oui, j'aimerais bien qu'on détaille un peu ton parcours universitaire. Commençons peut-être par ton mémoire de licence. Je sais que tu as travaillé sur la clinique, particulièrement des phénomènes de hantise. Tu peux nous en dire un mot?
Oui, alors c'était un mémoire de maîtrise 1, enfin master 1, comme on dit maintenant, et qui est venu en fait d'une observation que j'ai faite autour de avec des collègues de psycho en fait qui ont commencé à me dire que là maintenant elles étaient en train de vivre dans leur appartement des phénomènes de hantise. Alors venant de la part de collègues de psycho, ça m'a fait assez bizarre, hein, je pensais pas l'entendre de personnes comme ça. Et donc du coup, j'ai essayé d'écouter un petit peu comment ça se passait et ça m'a mis sur une piste des approches psychologiques de la personne hantée. Mais bon, comme c'est un mémoire de maîtrise, c'est simplement une sorte de grosse revue de littérature. Il n'y a pas à proprement parler de recherche très construite là-dedans, mais ça m'a ouvert vers d'autres choses. Par la suite, j'ai travaillé en master recherche sur les ados qui ont des pratiques occultes, donc adolescence et occultisme. Et par la suite, j'ai donc poursuivi sur une thèse où j'étudie à la fois les adolescents et les adultes qui vivent des expériences exceptionnelles.
Et quel type de recherche tu as fait durant ta thèse alors?
Alors là, c'était encore beaucoup de revues de littérature. Encore une fois, en anglais, en allemand, en français, pour essayer de poser un petit peu les jalons épistémologiques pour ce champ-là, parce que qu'est-ce qu'un clinicien vraiment a à y faire, comment il se repère par rapport à tous les travaux qui peuvent exister, tant que ce soit en psychologie anomalistique, en parapsychologie ou des approches sociologiques, anthropologiques. Bon, voilà, il fallait faire un petit peu le tour, le tri. Et mon approche, c'était plutôt qualitatif, puisque j'ai fait des entretiens cliniques semi-structurés avec des adolescents et des adultes. Et j'ai fait également une recherche par questionnaire, en utilisant des questionnaires, à la fois des questionnaires psychiatriques et des questionnaires spécifiques pour les expériences anomales ou exceptionnelles. Et donc, je comparais un petit peu les différents diagnostics qui pouvaient être déduits à la fois des questionnaires et des entretiens structurés qui donnaient quand même un point de vue un petit peu différent.
Oui, je pense que ça peut peut-être un peu surprendre les auditeurs, l'idée d'une clinique des expériences inhabituelles. Je sais pas si, je crois qu'on a, on n'a pas encore vraiment discuté du sujet sur le balado, mais c'est vrai que c'est assez, enfin, c'est des questions
qui
sont.
Oui, il faut pas me lancer là-dessus parce que là, il faut pas interroger un thésard sur son sujet de thèse, sinon on n'a pas fini, quoi.
En trois mots, allez, je te chronomètre, tu as 30 secondes pour expliquer.
Oh là là! Ah, c'est horrible. Non, vas-y, me fais pas des choses comme ça. Non, mais en trois mots, c'est que donc je suis à la fois un psychologue en psychiatrie adulte tout à fait classique, où j'entends parfois des patients qui parlent de paranormal, parfois dans la psychose ou parfois dans d'autres pathologies, après un deuil, après des différents types d'événements de vie, négatifs ou positifs. Et j'ai aussi cofondé une sorte de service bénévole. Donc maintenant, c'est Circé, mais avant, c'était dans le cadre d'une fondation de parapsychologie à Paris qui s'appelle l'Institut Métapsychique International. Et il y a depuis toujours une tradition d'accueil des gens qui pensent que leur expérience bizarre relève plutôt du domaine de la parapsychologie plutôt que d'un domaine de psychologie ou psychiatrie classique. Et du coup, effectivement, il faut pouvoir parfois écouter ces gens-là parce qu'ils ne sont pas tous psychotiques, mais alors qu'est-ce qu'on peut leur apporter en tant que clinicien sans faire soi-même quelque chose de paranormal? Parce que moi, je pratique toujours le même type de psychologie dans les deux cas.
Je crois qu'au niveau de tes centres d'intérêt, mis à part la clinique des expériences inhabituelles, il y a aussi des questions. Tu t'intéresses pas mal à l'histoire de la métapsychique, à l'histoire de la parapsychologie, non?
Alors, c'est plutôt l'histoire de la psychologie hétérodoxe, je préfère le dire. Ce qu'on distingue aujourd'hui comme étant parapsychologie ou métapsychique a longtemps été fusionné, confondu, en dialogue avec le reste. Et toutes ces parties-là, donc fin 19e, début 20e, a apporté des choses assez intéressantes, c'est-à-dire certaines méthodologies en psychologie comme l'utilisation des statistiques. Ça vient de problèmes posés dans le cadre de la recherche parapsychologique. Et donc, il y a beaucoup de choses, je m'intéresse surtout à la France, hein, pas les autres pays tant que ça, qui sont pas trop connus. Donc, Pierre Janet, son intérêt pour la parapsychologie, comment ça s'est fait, Pierre Curie, et puis d'autres personnes comme ça.
Oui, au niveau du sujet même de l'épisode, ce qu'on s'était dit qu'on discuterait, c'était un peu parler de la terminologie et de certains termes qui sont souvent des sujets un peu délicats entre les sceptiques et les promoteurs de l'existence du psy. Enfin, je ne sais pas justement quel vocabulaire tu préférerais qu'on utilise, mais
aucun en fait. Bon, on va être obligé d'en utiliser, mais bon.
Enfin bon, moi généralement j'utilise tenant, promoteur de l'existence du psy. Enfin bon, c'est le mieux que j'ai trouvé jusqu'à présent. Mais oui, donc au niveau des termes comme zététique et pseudo-sceptique, etc. Mais peut-être que avant d'aborder ça, et puis c'est un peu connecté. C'est pour ça que, je pensais que tu pouvais un peu parler du GIMI, étudiant de l'Institut Métapsychique International. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous y faites exactement? Enfin, exactement. Donc, qu'est-ce que vous y faites? En sachant que ça peut nous orienter vers la question du bloc zététique et de
j'y viendrai, oui. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, moi, j'ai toujours voulu échanger, discuter sur ces sujets avec, des gens au niveau académique, des étudiants. Et donc, au départ, j'avais monté mon propre petit groupe d'étudiants intéressés à la question. Et puis, en fait, j'ai découvert que l'Institut Métapsychique International avait effectivement lancé en décembre 2003, donc il y a 10 ans, un groupe pour les étudiants qui était encadré par Paul Burabéron, un pédopsychiatre, qui donne des cours d'ailleurs à l'Université catholique de Lyon sur société, sciences et phénomènes dits paranormaux. Et donc là, il y avait possibilité de trouver d'autres personnes qui s'intéressaient à ces sujets, qui venaient d'autres disciplines et qui avaient un regard critique, enfin, avec qui un débat, un échange était possible. Et le groupe étudiant a maintenant accueilli plus d'une centaine d'étudiants de vraiment toutes les disciplines possibles sur 10 ans. Donc il y a en moyenne, on en a 25, 30 chaque année présents. Et donc, un des aspects pédagogiques qui est mis en avant, c'est l'auto-formation. Donc beaucoup de lectures, beaucoup de discussions sur les lectures. Ça vient un petit peu compenser l'isolement qu'on peut ressentir quand on s'intéresse à ces sujets dans la francophonie. Et il n'y a pas vraiment de lieu universitaire où on peut échanger là-dessus. Et donc là, c'était une sorte de structure para-universitaire pour ces échanges. Et dans la pédagogie, il y avait aussi le fait de s'intéresser au scepticisme, à la question du non-psy, donc tout ce qui peut donner l'impression de relever du paranormal mais qui n'en est pas. Et donc lire les sceptiques, comprendre, analyser les travaux, développer un regard critique, ça faisait partie des objectifs du génie.
Juste au niveau concret, comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt virtualisé, donc sur Internet via, je ne sais pas, un forum privé ou quelque chose comme ça, ou bien est-ce que c'est des rencontres physiques sur Paris, ou les deux, je ne sais pas.
Alors au départ, c'était les deux, hein, donc avec 3-4 réunions par an, avec chaque étudiant préparait des exposés, une sorte de mini-colloque qui était assez formateur, et puis énormément d'échanges par Internet. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt... Il y a eu quand même une évolution, parce qu'en 10 ans, les gens qui commençaient en 2003, aujourd'hui, ils sont plus étudiants, donc il y a plutôt un groupe de chercheurs qui accueille les étudiants. Et qui leur permet de passer comme ça quelques étapes, mais qui se réunit seulement une ou deux fois par an, c'est un petit peu moins qu'avant, et qui a quand même toujours beaucoup d'échanges virtuels. Il faut dire que les étudiants francophones ne sont pas que en France, ni sur Paris, hein, par exemple. Donc effectivement,
C'est clair. C'est clairement un problème. Même moi, je regardais encore, je t'avais dit récemment, la conférence de Bertrand Meus, là, bah, aller sur Paris, même si ça m'intéresse en théorie, aller sur Paris depuis Bruxelles, alors que je suis pas si loin. Hein, si les gens viennent du sud de la France, c'est un fameux trajet, quoi.
Ah, complètement, complètement.
Oui.
Alors pour revenir, tu veux que je parle de ce pôle en fait, donc scepticisme et non-psy, et qui a été ensuite rattaché à un blog sur la zététique, mais ça s'est fait en quelques étapes, comme il y a eu une étape intermédiaire, enfin plusieurs étapes intermédiaires. Enfin, moi je veux parler de ce que moi j'ai traversé, c'est que je cherchais toujours à discuter avec des gens qui n'avaient pas les mêmes enfin, convictions, j'en ai pas vraiment, mais à tester un petit peu. Voilà, ben, il y a ces travaux en parapsychologie, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, j'allais poser la question un peu à n'importe qui. J'ai même été interrogé un prix Nobel de chimie là-dessus. Enfin bon, j'ai du coup beaucoup essayé de discuter sur Futura Science, qui est un forum de science, mais le problème, c'est que dans leur charte, c'est marqué explicitement qu'on n'a pas le droit de discuter de paranormal. Donc du coup, à chaque fois, les fils se fermaient quand ça devenait intéressant. Ensuite, j'ai migré sur la liste de discussion d'observatoires zététiques, où il y avait déjà d'autres membres du groupe étudiant, et où on a eu des échanges. Enfin, moi, je suis resté à peu près un an, alors c'était assez hétérogène, je pourrais y revenir. Et ensuite, à partir de là, avec d'autres étudiants, on a commencé à monter effectivement un site où on faisait ce travail qu'on veut voir, qui est un travail de critique et d'autocritique, à la fois visant ceux qui se disent sceptiques, mais qui n'appliquent pas vraiment la méthode scientifique, et les parapsychologues qui se disent parapsychologues, mais qui eux-mêmes ne font pas le travail, le bon travail à faire dans ce domaine.
Oui, juste un peu faire marche arrière avant que tu, puisqu'on aborde les sujets entre guillemets qui fâchent. Je pense que aussi c'est important de dire parce que souvent on t'a attribué, même moi je l'ai fait, une sorte de rôle de porte-parole de l'IMI ou du GIMI. Et c'est vrai que toi t'apparaissais dans les médias pour présenter l'IMI, mais je pense que, enfin, tu m'as bien expliqué que tu n'es pas un porte-parole de l'IMI, et même si là je t'ai fait parler du sujet, je pense que ça vaut la peine que ce soit clair de dire que bon, tu en es membre, mais c'est pas pour ça que tu es spécialement un porte-parole du GIMI ou de l'IMI, etc., quoi.
Bah, non, enfin, en aucun cas, je suis pas membre de l'IMI parce que c'est seulement les administrateurs qui sont membres de l'IMI. Au GEMI, effectivement, dont je fais partie, je dis, il y a eu plus de 100 étudiants, je peux vraiment pas parler à la place de ces 100 étudiants. Simplement, effectivement, moi, j'ai osé mettre mon nom. Par exemple, si je m'inscris sur un forum, je mets mon nom. J'avais créé un blog à mon nom, donc j'étais quand même repérable. Et du coup, c'est un petit peu, ça m'est un petit peu tombé dessus. J'ai un peu pris pour les autres aussi. Mais bon, comme les autres n'ont pas forcément, moi je respecte leur position, envie de dévoiler qui ils sont. Ils ont peut-être peur pour des raisons personnelles ou professionnelles de mettre ça sur Internet. Moi j'ai joué le jeu à fond et bon, ça m'a un petit peu desservi, mais je reviendrai pas là-dessus, quoi. Je continue.
Oui, je dois dire que moi c'est quelque chose qui m'avait toujours un peu dérangé du côté du GEMI. Hein. Moi je prêche pour la transparence de ce côté-là. Mmh. Et je dois dire que c'est quelque chose, justement, je trouve que ça m'embête que tu l'aies payé ou que tu le payes, quoi. Je veux dire, justement, tu as osé mettre ton nom, dire qui tu es, etc. Et c'est un peu dommage que c'est pour ça qu'on tombe sur qu'on est tombé sur ta pomme parfois, quoi. Mais enfin, pour en arriver aux blogs zététiques, c'est pour un peu contextualiser le problème, c'est la question du terme zététique, du concept mm-hmm. de zététique, de sa paternité. Évidemment, pour les zététiciens, de l'OZ ou francophone classique, dans la lignée d'Henri Brock, évidemment, c'est Brock qui a pas la paternité, mais qui en tout cas, enfin, c'est lui qui définit ce que la zététique, quoi. Tandis que les promoteurs de l'existence du psy, entre guillemets, ont tendance à l'attribuer à Troudzi. Bon, de toute façon, Troudzi a de l'antériorité, mais de toute façon, après, on remonte encore dans le temps, la zététique étant un concept assez ancien, évidemment. Mais c'est à cause de ça qu'il y a eu des tensions au moment de la création du blog zététique.
Oui, alors c'est probablement une erreur, effectivement, de notre part, parce que, notamment moi, mais on était plusieurs à avoir une certaine admiration pour la zététique de Marcello Troudzi. Hein, qui effectivement a des origines un peu plus antérieures et plus anglo-saxonnes aussi. Et le fait qu'on ait utilisé ce mot a été perçu comme une sorte de manipulation et de création d'une confusion, ce qui nous a amené, on l'a reconnu, hein, on a complètement changé le nom et puis voilà, quoi. Mais il s'est trouvé que par coïncidence l'Observatoire Zététique a nommé son blog Zététique également, donc du coup il y avait deux blogs zététiques avec des avis assez différents. C'était effectivement, ça a mis un petit peu le feu aux poudres. Après, ça c'est dans la forme, dans le contenu. Donc je disais, il y avait ce petit groupe d'étudiants, enfin quelques étudiants qui créent ce blog, qui mettent quelques articles, et puis après comme ça intéressait les autres membres du groupe étudiant de l'IMI, ça est devenu vraiment la partie publique du travail qui était fait dans l'ombre sur le pôle scepticisme et non psy, donc avec des publications d'analyse, d'articles de parapsychologie, d'articles de sceptiques ou de livres, de choses comme ça. Et plus tard, effectivement, il y a quand même eu un démasquage de la part de l'Observatoire Zététique par des manipulations informatiques pour repérer que c'était des membres du groupe étudiant qui publiait ce blog et qu'il fallait qu'ils le disent. Et donc, effectivement, après ça, ça a été dit et ça a été reconnu, revendiqué, que c'était un travail du groupe étudiant de l'IMI et aussi, en fait, en affiliation avec Skeptical Investigation, qui est un autre réseau de travail autour de ces questions-là, anglo-saxon. Mais effectivement, le passage d'un petit groupe qui se veut anonyme, ce qui était effectivement le cas, à quelque chose qui devient une antenne d'une fondation parapsychologie, si on veut, là, effectivement, il y a vraiment des grosses boulettes de notre part qui ont fait que les gens ont pu condamner la forme sans vraiment s'attaquer au fond. Et ça, c'est vraiment au détriment du fond.
Ben évidemment, mais moi ça m'avait à l'époque assez tendu tout ça. J'étais pas membre de l'OZ à l'époque et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas ou que j'ai entendu après les choses. Mais par exemple, c'est vrai que moi quand je voyais le site Skeptical Investigation, c'est un site avec lequel qui me pose beaucoup de questions parce que c'est vraiment une orientation très 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 critique de beaucoup de sceptiques que j'admire beaucoup évidemment. Enfin, ils ont des mots très durs. Enfin, dans la lignée de ce que je peux entendre actuellement chez Rupert Sheldrake, évidemment, il a un rôle très important, je pense, dans ce site. Mais c'est vrai qu'il, pour moi, c'est vraiment très extrême dans la critique dans une critique très agressive de gens comme James Randi ou Richard Wiseman, etc. Mais donc c'est vrai que c'est ça qui m'avait aussi beaucoup tendu à l'époque, quoi, le fait que vous affiliez avec ce site-là, quoi. Mais et puis évidemment, bon, de toute façon, certaines, je peux pas dire que j'étais d'accord avec toutes les critiques que je lisais à propos des sceptiques, mais je crois comme je te l'avais dit, il y a une vraie différence de vision épistémologique chez les zététiques de l'EZ et dans le groupe du GMI, je pense, hein, qui explique beaucoup de tensions aussi, quoi. Il y a un vrai débat de fond à avoir, mais ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est surtout que tu m'expliques un peu pour les auditeurs, parce que je pense qu'ils savent ce que c'est la zététique selon Henri Brock, à mon avis, s'ils écoutent ce podcast. Mais est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi, selon ta compréhension, la zététique à la Marcelo Truzzi?
Alors, Marcelo Truzzi, un petit peu pour resituer, c'était un professeur de sociologie à l'université de l'Est du Michigan, et il s'est intéressé assez tôt finalement à la magie et tout ça, puisqu'en fait il vient d'une famille de cirque. Son père était un fameux jongleur, et il a très tôt développé cette approche de la science qui se voulait, qui mettait l'accent sur l'exploration. Donc sa première revue, c'était Exploration. Et ensuite, il a été membre fondateur du PsyCop, donc l'un des grands organismes sceptiques aux États-Unis, où il a dirigé la revue The Zététique. Donc là, il avait cherché un nom un peu plus neutre. Il avait retrouvé des, il voulait vraiment éviter toute controverse, vraiment la neutralité totale. Bon, c'est complètement perdu. Il l'a reconnu, mais bon, il s'est basé sur Piron, un philosophe antique, puis sur d'autres auteurs qui avaient parlé d'une sorte d'art du raisonnement critique, voilà, une méthodologie scientifique qui permettrait d'aborder ce qui est aux limites de la connaissance, l'inconnu, les anomalies. Et donc il est rentré dans une grande réflexion autour de ça, mais ça s'est pas très bien passé pour lui parce que lui, alors vraiment, il a cette idée, c'est une méthodologie du jongleur, hein, c'est-à-dire qu'il faut comment travailler avec des choses qui sont encore en l'air. Hein, donc des balles qui sont encore en l'air, elles sont pas encore posées, on ne sait pas si c'est des carottes, des navets, on ne sait pas encore ce que c'est, on travaille sur de l'incertain, il faut quand même pouvoir le faire de façon rigoureuse, il faut pouvoir être équilibré dans l'approche. Donc vraiment, un jongleur, s'il n'est pas équilibré, bah forcément, il y a une balle qui va tomber. Donc, il a essayé de développer cette question-là et ça impliquait d'inviter dans un dialogue les tenants de toutes les positions. Quand il y a une controverse, on prend ceux qui pensent telle ou telle chose et puis ceux qui disent, mais non, moi j'ai la preuve de telle ou telle chose. Et on essaie de les réunir pour un débat. Et donc, dans la revue qu'il avait créée au PsyCop, il voulait faire intervenir des gens tenant de la parapsychologie ou tenant de la cryptozoologie, d'ufologie et tout ça. Donc, il était avec d'autres chercheurs. Et ça n'a pas plu, hein. On n'a pas voulu ouvrir et donner comme ça un petit peu un champ, un forum pour des gens qu'on déconsidérait, qu'on trouvait trop marginaux. Et puis, quand il y a eu des recherches un petit peu empiriques, il a trouvé que lui, l'approche n'était pas équilibrée, qu'il y avait des biais méthodologiques, donc que du coup, il y avait une forme de pseudo-science au sein même du mouvement sceptique. Et il s'en est détaché, il a démissionné du PsyCop, il a créé par la suite le Zététique Scholar, qui a eu 13 numéros sur une dizaine d'années, qui est peut-être la meilleure revue. Selon moi, deux zététiques à la Truzzi qu'on peut trouver qui en ligne, hein, d'ailleurs, qui a réuni un peu tout le monde, des sceptiques comme Ayman, comme d'autres, comme Barber et tout ça, des parapsychologues, on retrouve vraiment tout le monde là-dedans. Et il a ensuite développé ce qu'il a plus amené vers l'anomalistique. Mais l'anomalistique, c'est finalement un prolongement de la zététique de Truzzi, c'est-à-dire la science des anomalies à tous les niveaux, donc interdisciplinaire, quels sont ses principes méthodologiques, comment on étudie des faits controversés, comment on crée un dialogue. Et donc dans le zététique scolaire, pour donner un exemple, on faisait de l'open peer commentary, donc on présentait un article à une communauté de chercheurs et qui voulait pouvait faire un commentaire, donc avant que l'article soit publié. Et l'article était publié avec une dizaine, une douzaine de commentaires divers qui permettaient, vous voyez, vraiment aux gens qui lisaient la revue de se faire une idée en pesant le pour, le contre, tous les arguments sur la table. Donc voilà ce type de méthodologie plutôt équilibrée, plutôt ouverte au dialogue que Truzzi a amené.
Juste pour dire, par exemple, c'est vrai que moi, c'est des réactions que j'ai souvent quand j'interview des tenants sur le balado. J'avais interviewé un spirit une fois ou comme ça, et souvent la réaction que j'ai, mais pourquoi est-ce que tu interviews, enfin souvent, non, c'est le genre de réaction que je peux avoir de certains sceptiques, c'est dire, mais pourquoi tu les interviews? En fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas, on a déjà pas, on n'entend déjà pas beaucoup la voix des sceptiques dans la culture globale. Enfin, bon, en tout cas, c'est l'idée que les sceptiques en ont souvent. Et donc, c'est un peu, pourquoi donner du rang de parole aux tenants puisqu'ils en ont déjà apparemment dans les médias,
Mais
enfin.
c'est vrai aussi de l'autre côté. Les parapsychologues ne veulent pas parler avec certains sceptiques, ne peuvent pas perdre du temps à répondre à des gens qu'ils trouvent ignares, incultes, méprisants. Donc, la division, elle est très très facile, quoi. Le fossé, il est assez grand. Mais Trudis est quelqu'un d'assez admirable en tant qu'être humain parce qu'il était vraiment capable de respecter tout le monde et même se créer des amis. C'est-à-dire, il était ami avec James Randi et avec Uri Geller en même temps. C'est ami avec Riemann le sceptique et je sais pas Charles Honorton ou Daryl Bebe ou des gens comme ça. Donc il y a pas de chez lui il est contre les divisions et il est pour le dialogue. Voilà.
Oui, alors assez ironiquement, évidemment, je pense que c'est Henri Brock a repris le terme zététique de Zététique Scholar, donc la revue du PsyCop à l'époque du Committee for Skeptical Inquiry, maintenant du CSI. Et je pense que cette revue, avant que Trudzin démissionne, n'a duré quelque chose comme 2 ou 2 ans. Hein.
Oui, c'est ça,
Et
1 an et demi, 2 ans.
voilà. Et puis après, les sceptiques américains ont.
Enfin, non, c'est le zététique qui a duré 1 an et demi,
Oui, c'est
2 ans.
ça, oui, c'est
Le
ça qu'on dit.
zététique scolaire a duré une dizaine d'années à partir de 78.
Ouais, c'est ça.
78 à 87, en fait.
Et donc c'est à partir de cette revue qu'Henri Brock a utilisé le terme zététique en France, alors qu'après la démission de Truzzi, dans le monde sceptique anglo-saxon, le terme a complètement périclité, et tout le monde est passé à sceptique au lieu d'utiliser zététique.
Je suis pas si sûr que ça, puisque, enfin, d'après moi, il y avait quand même encore une frange de gens sceptiques qui suivaient Troisi. Troisi a créé une sorte de mouvement intermédiaire. Alors c'est peut-être difficile à concevoir parce que on voit les grosses oppositions, mais on voit pas forcément les gens qui dialoguent. Mais des gens comme Diaconis, Mario Bunge, Theodor Barber, Riemann, Piet Hobbins. Enfin, c'est peut-être pas les gens les plus médiatiques, hein, parmi les sceptiques, comme effectivement Randi, Alcock et tout ça, mais ce sont des gens qui ont un niveau académique et qui ont travaillé sur ces questions avec des débats de très haut niveau. Et ce mouvement-là, il a continué. Alors aujourd'hui, j'ai parlé d'anomalistique, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que Troudzi, en 81, dans le mouvement qui avait bien pris du zététique scolaire, a créé le Center for Scientific Anomalies Research, donc le centre d'études des anomalies scientifiques, pour la recherche sur les anomalies scientifiques. Ça, c'était en 81, et en 82, en fait, c'est devenu plus grand parce que ça a changé le nom, ça change un peu. C'est un petit peu les mêmes personnes, mais c'est devenu la Société for Scientific Exploration en 1982. Donc, il a été un des membres fondateurs, et cette société qui existe toujours, elle étudie tout ce qu'étudient les sceptiques, donc toutes les revendications bizarres, cryptozoologie, ufologie, énergétique, parapsychologie. Mais toujours avec un niveau d'exigence au terme de rigueur qui est voilà au niveau scientifique quoi. C'est pas une revue de conviction, c'est une revue de dialogue.
Oui, pour donner un exemple aux auditeurs, un des membres du comité para, une organisation sceptique belge, enfin, encore une fois, si vous êtes un auditeur régulier du balado, vous la connaissez, était allé aux États-Unis pour un colloque de ce groupe, et avait présenté leurs travaux sur l'effet Gauquelin, ou leur démystification de l'effet Gauquelin, pour donner juste un exemple, hein, donc de sceptiques qui intervenaient là-bas, quoi. Juste pour être clair, parce que tu m'as dit d'être clair aussi, quoi, exprimer mes désaccords avec toi, pour
Oui,
pas dire que
vas-y.
on en a parlé, hein, mais c'est vrai que moi, Truzzi, j'ai à l'heure actuelle, je c'est pas que je ne l'aime pas, mais je veux dire, je suis pas fan non plus, quoi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il défend une position agnostique et vis-à-vis des affirmations, par exemple paranormales. Et c'est vrai que je pense que c'est un des points de désaccord entre les promoteurs de l'existence du psy et les sceptiques. Je crois que du côté des sceptiques à la CSA et les zététiciens, on adhère plus à l'idée, les affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Et c'est vrai que ça va à l'encontre de la position troudzienne qui est plus
Alors,
ouverte.
ce qui est plus amusant, c'est que le popularisateur de cette maxime n'est autre que Troudzi, en fait. Parce qu'il l'a employé pendant 25 ans, si tu veux. Ensuite, il en est revenu, Il avait même prévu d'ailleurs d'écrire un essai pour expliquer en fait la fausseté de cette maxime, mais il ne l'a pas fait. Donc il est mort à 67 ans d'un cancer, donc en 2003. Et, mais bon, il avait plusieurs des plusieurs points communs avec les sceptiques du Psycop. Hein. Il y avait pas ce qui le différenciait surtout, c'était cette volonté d'appliquer l'esprit critique dans leur champ eux-mêmes, c'est-à-dire être capable de critiquer les sceptiques, enfin les critiquer entre eux, quoi. Donc avec cette notion de pseudo-sceptique, c'est pas parce qu'on dit qu'on est sceptique, qu'on dit qu'on est zététicien, qu'on a lu Brock, qu'on applique vraiment. Parce que pour ça, il faut être vraiment capable de dépasser un petit peu le côté partisan de la chose.
Oui, moi, mon impression générale, c'est que c'est surtout ce qui différencie fort, c'est la volonté d'ouverture, là où souvent les sceptiques ont plutôt une tendance dans une optique militante à être ce qui va nous arriver à nous amener au dernier point de cette conversation pour aujourd'hui, à utiliser un vocabulaire justement qui marginalise en disant ben non, il faut pas dialoguer, on ne dialogue pas avec les créationnistes, on ne dialogue pas avec les tenants du dessin intelligent, c'est des charlatans. Et alors on met alors les parapsychologues ou les métapsychiques dans cette même catégorie, quoi. Et donc ce qui nous amène au dernier point que je voulais aborder, c'est l'usage du terme pseudo-sceptique. Et c'est vrai que c'est un terme qui m'a fait beaucoup effet hérisser les poils. Et c'est vrai que bon, dans une optique un peu ce que j'appelle l'optique cours de récréation, souvent je le vois bien sur les groupes de parapsychologie que je fréquente en tant que sceptique, pseudo-sceptique est utilisé comme une insulte. Et quand j'évoque cet aspect-là, on me dit ouais, mais les sceptiques, ils utilisent aussi des insultes. C'est vrai qu'il y a woo-woo de James Randi, enfin il y a tout le vocabulaire charlatan, etc. Alors bon, ma réponse est toujours oui, mais ça c'est un argument de cours de récré, quoi. Les sceptiques utilisent un vocabulaire dérogatoire, ça c'est de l'anglais, un vocabulaire insultant vis-à-vis des tenants du paranormal, et donc les tenants du paranormal utilisent un vocabulaire.
Oui, bah alors moi c'est pas comme ça que j'utilise, et c'est pas comme ça que du tout que Trozzi l'a défini. Hein. Effectivement, on peut parler d'un travail qui fait preuve de pseudo-scepticisme si on l'a analysé de façon rigoureuse. Effectivement, si on s'envoie ça à la figure, si on dit un tel est toujours pseudo-sceptique, ça n'a aucun sens, puisque il peut être capable de dire des choses correctes. C'est des affirmations qu'il faut analyser. Donc le pseudo-scepticisme, par exemple sur le site pseudo-scepticisme.com, il y a comme contrepartie d'avoir aussi cette étude de la pseudo-parapsychologie, par exemple, qui est ces gens qui se disent parapsychologues. Alors, le titre n'est pas du tout protégé. Du coup, ça va être des praticiens du paranormal, mais ça va être aussi des gens qui disent « Moi, je connais, j'ai fait tel travaux. Bon, je l'ai pas publié dans une revue à comité de lecture, mais bon, j'ai enquêté sur tel cas de hantise, ça fait moi un expert. » Et ça, il faut être vraiment capable de le critiquer. Alors, ce qu'il y a de différent par rapport à Skeptical Investigation sur le site pseudo-scepticisme, c'est qu'il y a quand même des travaux de critiques de parapsychologues. Il y a par exemple toute cette étude fameuse de Cox sur les gens qui ont le pressentiment qu'il va y avoir un accident de train et qui annulent leur billet, qui n'y vont pas, ou pour une raison ou une autre. Il y a eu une nouvelle analyse statistique qui a été faite par nous et qui a montré que ça tenait pas. Et ce truc, pourtant, il se diffuse toujours. Hein. Ça date des années 60. Et là, on a poussé un petit peu plus loin encore récemment. Enfin, moi, j'ai publié deux articles de critiques de choses qui sont plutôt a priori favorables à la parapsychologie. Donc, c'est à la fois les travaux de Pim van Lommel publiés dans Lancet sur les expériences de mort imminente et la répercussion psychologique. Donc, j'ai fait une analyse critique dans l'étude sur la mort. Et récemment, j'ai été co-auteur d'une étude sur toutes les... Enfin, il n'y en a que 6, hein, donc je dis toutes, mais c'est très peu. Les études de neuro-imagerie fonctionnelle testant le PSI, donc la parapsychologie, en montrant les défauts méthodologiques de ces études, enfin en tout cas au moins 4 sur 6 ou 5 sur 6, qui fait qu'il ne restait pas grand-chose au final. Mais c'est un travail... C'est peut-être un idéal de neutralité, hein, cette capacité à trouver l'équilibre en étant en appliquant le sens critique à la fois aux autres et à la fois à soi-même. Mais je pense que c'est vraiment ça la zététique à la Trozzi. Je précise juste que effectivement, par exemple, ce qu'on a publié sur la neuroimagerie fonctionnelle, c'est dans Frontiers in Human Neuroscience, donc c'est directement disponible en ligne gratuitement. Voilà pour les gens qui seraient intéressés.
Je pense que tu as un livre en préparation, ça vaudrait peut-être ça vaudrait la peine que tu le mentionnes. Ta promotion, tu
Ah
travailles
bah
sur quoi?
merci, oui. Bon, je suis ça c'est du côté de ma thèse en fait, effectivement, que je publie aux presses universitaires de Rennes, qui va s'appeler Folie et paranormal, vers une clinique des expériences exceptionnelles. Et donc je reprends beaucoup d'articles que j'ai publiés sur comment les psychologues, les cliniciens, les psychanalystes se sont intéressés, les psychiatres aussi, à la question du spiritisme, des enfants indigos, des entendeurs de voix, ou de la propension à la psychose, de la schizotypie, énormément d'aspects où on va retrouver un petit peu le problème posé par ces expériences paranormales, parce qu'elles sont très présentes dans la population générale, donc chez un peu tout le monde, même des chiffres de prévalence assez élevés, et les cliniciens qui font face à ça, ils n'ont pas forcément les repères adéquats pour répondre à ces demandes, et donc c'est mon travail, voilà, qui sortira en janvier.
Très bien, super. J'espère que on aura un peu, comment dire, apaisé certaines tensions. Je suis sûr qu'on les aura pas apaisées toutes, mais bon, on a
Non,
fait.
mais tu parlais au début de conflits. C'est vrai que ça peut paraître conflictuel, mais moi, j'aime beaucoup échanger. Je suis pas méprisant. Enfin, j'essaye de pas l'être. Dites-le-moi si je le suis, hein. Donc pour moi, ça reste un dialogue qui est ouvert. J'adore toujours avoir des interlocuteurs qui s'informent, qui vont lire les choses qu'on leur dit de lire, qui sont là dans un échange courtois. Et donc, je te remercie encore une fois de l'avoir permis pour aujourd'hui.
Oui, tant qu'on y est, c'est vrai que je voulais signaler qu'on a tous les deux contribué à une revue qui s'appelle le Jeep, hein, Journal for. Alors tu vas me dire ça mieux que moi, je parie.
Avec un accent aussi pourri, Journal of Exceptional Experiences and Psychology.
Voilà, donc en
Voilà.
français, ce serait le Journal de psychologie et des expériences
Exceptionnel.
exceptionnelles, pas inhabituelles, celle-là. Et c'est vrai que j'ai publié un article dans le premier, puis j'ai reçu une réponse de toi et une réponse d'un autre auteur que je ne mentionnerai pas aujourd'hui, mais ben voilà. Bon, ça c'est parfois on
Pareil,
a.
c'est une revue en ligne, bon, en anglais, mais gratuitement accessible.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que ça, personne n'aime se faire critiquer, mais bon, ça fait partie du jeu de la science, et il faut le faire, et voilà quoi, il faut essayer
Moi,
de.
j'aime me faire critiquer quand c'est bien fait. Je veux dire, je suis fan de critiques constructives.
Voilà.
Donc pas des trucs méprisants, dédaigneux et tout ça, mais on apprend énormément dans l'échange, et enfin moi j'en reste convaincu.
Oui, c'est vrai que c'était ce à quoi j'étais en train de réfléchir quand tu parlais de pseudo-scepticisme. C'est un terme qui est un peu utilisé aussi par les sceptiques parfois, moins, mais qu'on retrouve chez certains sceptiques. Moi j'aurais tendance on parlait plutôt de armchair scepticisme ou scepticisme de bureau, de derrière son bureau, quoique ça a une place aussi, je pense. Mais je pense que c'est vrai qu'il faut reconnaître que certains sceptiques sont mal informés, mais bon, dans beaucoup, le scepticisme couvre un tel éventail de débats et de questions que c'est difficile pour les sceptiques d'être bien informés dans tous les débats.
C'est-à-dire que même au sein de la communauté sceptique, c'est extrêmement large le panel de positions. Je pense que tu en parles assez souvent dans ton podcast. Il y a des brouilles d'ailleurs en ce moment. On voit un petit narcissisme, des petites différences. Où, du coup, on a peut-être du mal à s'y repérer. Il y a énormément de distinctions. Et même chez une personne comme Richard Wiseman, pour prendre un exemple, il est capable de publier des articles extrêmement intéressants, critiques, d'analyse, et publier ou de faire du debunking, qui est une sorte de moquerie. Ouvertement, en négligeant toute une partie des données, et d'une attitude comme ça, effectivement, ça, c'est pas très valorisant. Il peut être critiqué sur les trucs les plus faibles et à peine connu sur les trucs les plus fins qu'il ait fait. C'est pareil pour les parapsychologues. Il y en a qui, dans les médias, surtout ceux qui sont médiatisés, finalement, c'est ceux qu'on connaît, font des erreurs, sont très synthétiques, prennent beaucoup de raccourcis, mais la littérature parapsychologique telle qu'elle existe, elle n'est connue que de très peu de personnes, en fait. Personne ne lit ses revues, même parmi ceux qui disent s'intéresser au paranormal de façon critique. Voilà.
Oui, c'est vrai que moi, par exemple, je m'y intéresse et encore, j'ai le degré de connaissance que j'en ai. Hein, je ne suis pas une encyclopédie vivante sur le sujet non plus.
Moi de même, hein.
Mais c'est vrai que, par exemple, pour donner un exemple, moi, si on parle de réchauffement climatique, c'est vrai que sur le podcast, je vais défendre la position standard des sceptiques, mais je ne peux pas prétendre que j'ai jamais lu un article scientifique sur le réchauffement climatique, par exemple. Donc, dans le fond, c'est vrai que les sceptiques, finalement, pour moi, c'est quasiment une faiblesse du mouvement sceptique qu'il a une telle extension tellement large, et tu évoques certains conflits qu'il y a actuellement, par exemple, sur l'inclusion des débats autour du féminisme, etc. Et c'est vrai que moi, je suis pour un scepticisme réduit en taille, justement, à cause de ça. Enfin, bref, on est reparti, mais
Oui,
je
mais
vais
on
vraiment
aura d'autres questions.
arrêter. Oui, de toute façon, on sait bien qu'il y a beaucoup de fois à discuter. Je te réinterviewerai certainement dans quelques mois. Et
Ok.
à une prochaine alors, hein.
Ben, merci beaucoup. Au revoir.
Ciao, ciao.